Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 20 janvier 1987.
L'homme en tant que créature et sous son aspect religieux. quelque chose de plus. Il faut fonder l'attitude religieuse dans l'aspect de la création. Qu'est-ce que c'est que l'homme religieux ? C'est celui qui reconnaît sa dépendance à l'égard de Dieu. Alors, est-ce que cette reconnaissance se fait uniquement sous un point de vue affectif, d'une connaissance affective et d'une connaissance pratique? Ou est-ce que cette reconnaissance peut avoir un fondement proprement de sagesse et donc de philosophie première aussi? Et c'est pour ça que c'est un problème très important. C'est pas du tout secondaire de dire oh, ça n'a pas d'importance qu'on traite de la personne en philosophie première ou en éthique. Eh oui, en éthique, vous ne pouvez pas démontrer et remonter jusqu'à l'existence de Dieu. Vous savez bien, éthique religieuse, mais l'éthique religieuse présuppose la découverte de l'existence de Dieu pour qu'elle soit vraiment une éthique religieuse. Autrement, elle se fondera sur les traditions religieuses et sur l'histoire. Si elle veut être vraiment philosophique, elle dépend de la démonstration, de la découverte, du dévoilement de l'être premier au plan philosophie première. C'est ça qui est important à comprendre. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire d'avoir un regard de philosophie première sur la personne humaine. C'est impliqué dans saint Thomas, mais ce n'est pas explicite dans saint Thomas. Parce que le regard de saint Thomas sur la personne humaine est un regard de théologien. Saint Thomas n'a pas fait de philosophie pour elle-même. Donc quand saint Thomas traite dans la Somme ou dans le De Potentia, parce que c'est dans le De Potentia, je crois, que saint Thomas explicite le plus sa recherche de la personne. Quand saint Thomas, de fait, a cette recherche de la personne, c'est en tant que théologien qu'il le fait. Saint Thomas est toujours un théologien. Au Moyen-Âge, on n'avait pas besoin de faire de philosophie pour elle-même. C'est compréhensible. Parce qu'on vivait en chrétienté. Donc, vivant en chrétienté, on parlait pour les croyants. Ça ne veut pas dire que la chrétienté ne s'ouvrait pas à tous les hommes, n'était pas catholique, elle s'ouvrait à tous les hommes. Mais de fait, le théologien ou le chrétien était théologien et n'éprouvait pas le besoin de cette ouverture vers tous les hommes comme nous le ressentons aujourd'hui après Vatican II. Vatican II a demandé l'ouverture au monde. Et en demandant l'ouverture au monde, Vatican II demande que le croyant, que l'apôtre soit philosophe. Pour pouvoir parler à tous les hommes. Et vous voyez, c'est quand même la providence qui fait que le pape d'aujourd'hui est avant tout philosophe. Il est avant tout croyant, c'est évident, en premier lieu. J'allais dire, dans sa réflexion propre, il est très philosophe. Et c'est pour ça qu'il peut s'adresser à tous les hommes avec tant de pénétration, qu'il peut s'adresser à toutes les religions avec ce respect que la philosophie doit donner à l'égard de l'homme et que la foi doit intensifier. Mais grâce à la philosophie, ça peut s'expliciter plus facilement. De sorte que je crois qu'après Vatican II, il est nécessaire d'introduire tout le problème de la personne en philosophie première. Réfléchissez là-dessus, parce que c'est important. Et vous comprenez bien que la personne introduite en philosophie première ne nous dit pas quelque chose. chose de nouveau au point de vue de l'être. La personne n'est pas un nouveau principe au niveau de l'être, mais elle est une nouvelle manière d'exister. C'est le Dasein de Heidegger. Elle est une nouvelle manière d'exister. Et ça, c'est important de comprendre cela. C'est la manière ultime d'exister. Parmi toutes les réalités existantes, parmi tous les étants, il y en a un plus parfait que tous les autres, un qui est au sommet de tous les autres, c'est la personne humaine. Et l'étant de la personne humaine, sa manière d'exister, rejoint l'être. De sorte qu'il est un étant très spécial qu'on ne peut pas nier. C'est le seul étant que Heidegger respecte. Et ça aurait dû être pour lui le moyen de respecter tous les autres. Parce que tous les autres, il les nie pour découvrir l'être. Alors, l'homme, il le respecte. Il ne peut pas le nier. Et c'est à travers l'homme qu'il découvre l'être. On comprend très bien, du reste. Je ne peux pas me nier et découvrir l'être. C'est bien en essayant de réfléchir sur ce que je suis que je découvre l'être. Je pense, donc je suis. Ce vieux reste philosophique de Descartes. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça chez Heidegger. Il n'a pas complètement dépassé ce « je pense donc je suis ». C'est du reste très difficile à vraiment le dépasser. Donc, la personne humaine, au plan philosophie première, c'est une manière d'exister, c'est un pose. C'est un comment. Comment l'être existe-t-il de la manière la plus parfaite? Pour mon expérience humaine, c'est la personne humaine. L'urgence de ce problème est facile à comprendre aujourd'hui. Parce que si vous regardez la philosophie contemporaine, vous voyez que le problème de la personne est central. Je ne parle pas des idéologies athées, cela va de soi. Parce que si on rejette Dieu, l'homme devient Dieu. Vous comprenez comment? Feuerbach dit ça admirablement, en disant que c'est en rejetant Dieu que l'homme se découvre comme absolu. Et donc se découvre comme l'être non relatif. À personne d'autre, donc comme absolu. C'est l'homme qui est infini. C'est très vrai que si je rejette Dieu, la réalité la plus parfaite que j'expérimente, sur laquelle je m'arrête, c'est l'homme et la personne humaine. Mais même en dehors des idéologies athées, je vois que la philosophie contemporaine tend dans l'existentialisme que dans la féminologie tourne toujours autour de la personne. Le contact le plus important que je peux avoir avec la philosophie contemporaine, c'est le problème de la personne. Je crois que là, le Saint-Père l'a très bien saisi. Et son livre sur la personne et l'acte, à ce point de vue-là, est très intéressant. Parce que il nous montre quelqu'un qui, pénétrant dans la philosophie par la phénoménologie, veut rejoindre la métaphysique. Il comprend que la personne ne peut pas uniquement être atteinte par la phénoménologie. Il faut autre chose. Et cette autre chose, de fait, seule la métaphysique peut dire. ça que la métaphysique doit, là, dans une autre démarche, par elle-même, s'arrêter sur ce problème de la personne humaine. Et là, elle rejoint l'effort du fémologue qui essaie, lui, d'atteindre la personne. Mais, au fond, la personne est toujours un grand carrefour, la personne humaine, qui va rejoindre la voie de l'immanence de la fémologie et la voie de la transcendance de la métaphysique. Et la personne est le lieu entre les deux. L'immanence et la transcendance. Et c'est pour ça que c'est à partir de la personne humaine que le problème de l'existence de Dieu doit se poser aujourd'hui. Il y a tout un petit problème intéressant sur lequel je ne vais pas m'arrêter beaucoup, mais c'est quand même intéressant de le noter au point de vue philologique. L'origine et la signification du mot personne. Du point de vue historique, il faut reconnaître que le problème de la personne humaine ne s'est posé explicitement qu'assez tard dans la philosophie grecque. Nous disons bien explicitement, car si le mot prosopon apparaît tardivement avec le sens philosophique de notre moi, du mot personne tel qu'il est, c'est-à-dire notre moi, la réalité à laquelle il correspond est présente bien avant. Alors là, c'est toujours la petite distinction qu'il faut bien comprendre ce que se dit saint Thomas. Et il ne faut jamais l'oublier que le mot personne, même s'il n'est pas dit explicitement dans la philosophie d'Aristote, dans la philosophie de Platon, il est cependant présent dans sa signification, réelle. N'oublions jamais cette manière de regarder les choses, bien que le nom de personne ne se trouve pas dit de Dieu dans l'Écriture, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Cependant, on trouve de multiples fois affirmé de Dieu ce que le mot, ce que le nom personne signifie, à savoir que Dieu est maxime per se ens et perfectissime intelligence. C'est saint Thomas qui dit ça. Et vous voyez que c'est intéressant de voir que le mot personne, dans sa signification, c'est le maxime per se ens. C'est bien une modalité de l'être. C'est l'être per se maxime. Et c'est le perfectissime intelligence. C'est l'être qui rejoint l'esprit. Et c'est l'esprit qui rejoint l'être. Prima pars, question 29, article 3, ad primum. C'est intéressant de bien comprendre cela. Alors, c'est intéressant de voir d'où vient prosopon. C'est curieux, c'est très intéressant. Le masque, le personnage qu'on joue dans le drame. C'est pour ça que c'est le masque, prosopon. Vous voyez, le personnage marqué par le masque. Vous jouez un personnage quand vous jouez sur la scène. Et ce personnage, c'est vous et c'est pas vous. Vous doublez d'un personnage. Et c'est pour ça que c'est le masque. Et on découvre la personne à travers son personnage, à travers la fonction. C'est très intéressant quand on connaît une personne qui joue sur la scène. On reconnaît à travers la manière dont elle joue sa personne. bien qu'elle essaie d'être entièrement dans son personnage, elle ne l'est jamais totalement. Donc, au point de départ, ces personnages, progressivement, c'est devenu personne. C'est chez les stoïciens que le mot personne apparaît. Puis, ça a pris un problème énorme chez les théologiens. Et c'est entré dans le monde latin par Boès. Quant au mot persona, plus tardif que prosopone, donc vous voyez bien prosopone, grec, persona, latin, il a une étymologie beaucoup plus incertaine. À la suite d'Olungène, deuxième siècle après Jésus-Christ, Boès, au cinquième siècle, affirmera d'une façon absolue que persona vient de personare. Je ne sais pas du tout, hein. C'est dans des Duabus Naturae. Persona dicta est a personando. Circumflexa penultima. Alors voyez ce que ça peut signifier. Hein. Si elle vient de personare, persona vient de personare. D'autres étymologies, plus ou moins fantaisistes, ont été proposées au cours des siècles. Ainsi saint Thomas, à la suite de Placidus, suggéra que persona pourrait venir de persona. Ça c'est le comble. C'est tout à fait été.
Sur ce zéro,
truc, c'était un imbécile de parler si bien le latin. Il aurait pu parler le latin avec un peu de bras d'enfant. C'est un homme qui parle très bien le latin, il le sait, ce qui est de mieux. Parce qu'en rhéteur, il le sait. Alors quand il passe du latin au grec, il est très intéressant, toujours très amusant. Il faut avoir des lieux où on peut s'amuser. Vous voyez, c'est comme le cratil chez Platon. Le cratil est toujours très intéressant aussi, parce que chez Platon, le cratil, c'est le lieu de toutes les étymologies. Vous savez bien, c'est dans le cratil que Platon dit « Ousia », ça vient de « Hestia », la déesse qui demeure. C'est amusant. Parce que quand vous parlez de Ousia, on n'a pas du tout l'impression que c'est la déesse qui demeure. Tandis que Platon dit ça. Alors, c'est amusant. Il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est un soubassement. La philologie, c'est un soubassement. Pour le langage est un signe, pas plus. Vous ne pouvez pas faire une philosophie du langage. Jamais. Vous pouvez étudier le langage comme vous étudiez, je ne sais pas, un lieu de communication où on rencontre beaucoup de choses et des quantités de choses. Et quand vous rencontrez les personnes sur un des lieux de passage, dans une gare de triage, c'est assez particulier. Les rencontres sont spéciales, ne sont pas les mêmes du tout quand on les rencontre chez elles. Bien, le langage est un lieu de passage. C'est extraordinaire, ça. Et la pensée est là. Elle se heurte vis-à-vis d'autres. Et c'est quelque chose qui est pour nous comme un signe. Alors, maintenant, nous allons entrer rapidement, mais il faut quand même le faire, je crois, dans une petite topique historique. Si on veut vraiment essayer de comprendre ce que c'est que la personne, il faut le faire. Alors, je le ferai très rapidement. Au fond, la philosophie humaine a commencé chez les pythagoriciens. L'éthique, la première éthique, l'éthique fondamentale au point de vue de notre philosophie occidentale. Au point de vue de notre philosophie occidentale, c'est les pythagoriciens. Et c'est une philosophie religieuse. Religieuse et communautaire. Ce sont des fraternités. Ce sont des lieux de prière. Des petites communautés de prière, les pythagoriciens. Chez les pythagoriciens, le climat religieux conduit à poser la question du sens de la destinée de l'homme. C'est en effet dans un milieu religieux que le problème de l'âme immortelle de l'homme s'est posé en premier lieu, et avec lui nécessairement celui de la destinée de l'homme, et donc de la personne. C'est ça qui est incurieux. Je crois que le problème de l'homme se pose en impliquant le point de vue religieux, le point de vue de l'immortalité. Car si l'homme n'a pas de destinée propre, individuelle, y a-t-il encore un problème personnel? Il y a un problème individuel. C'est intéressant de voir comment, par quelle arête, le problème de la personne s'est posé. C'est parce que l'individu dépasse l'espèce. Je crois que c'est ça, au fond. Quand l'individu est noyé dans l'espèce, on n'a pas besoin de lui donner un nom particulier. Oh oui, l'homme appelle Médor et tout ce que vous voulez, mais Médor n'est pas une personne. Médor, c'est l'individu du moment. Quand il mourra, il y aura un autre Médor. Il y a un autre Azor. Et ainsi de suite. La manière dont vous appelez les petits cochons. C'est très très bien. M'appelle, c'est un petit cochon. C'est comme ça. C'est très bien, mais ça passe. C'est l'individu qui est submergé par l'espèce quand il s'agit des animaux. Tandis que le nom donne, regarde une personne. Et la personne, c'est quand l'individu dépasse l'espèce. Donc c'est le problème de l'immortalité. Si l'animal, la finalité de l'individu est celle de l'espèce. Il n'y a plus de place pour la personne. Donc le problème de la personne ne se pose pas. Il se posera par rapport à l'homme. Et c'est pour ça que je nommerai l'animal en lui donnant un nom. Et on sait très bien que c'est une douce fantaisie. C'est une douce fantaisie. On a introduit l'animal dans la maison en le nommant. Parce que les animaux sauvages n'ont pas de nom. Tandis que l'animal domestique, il a un nom. C'est une manière de l'introduire dans la maison. C'est une manière de faire participer aux relations personnelles. Et par là, on l'ennoblit. Donner un nom à un animal, c'est l'ennoblir. C'est de faire que ce petit animal, grâce à la relation que j'ai avec lui, parce que je l'ai dressé, et parce qu'il me lèche la main, grâce à ça, il s'ennoblit. Et alors, il est digne de recevoir un nom. Ah, vous voyez, il est digne de recevoir un nom. Vous allez voir tout de suite que la personne est liée à la dignité. Donc je crois qu'on peut dire l'immortalité et l'aspect de la dignité. Ce qui est certain, alors ça historiquement certain au plan du philosophique, c'est que le milieu religieux mystique en lequel s'élabore le pythagorisme favorise l'éclosion du problème de la destinée de l'homme. L'homme doit se purifier progressivement avant d'atteindre sa propre fin, la fin pour laquelle il est fait et qui permet son épanouissement ultime. Cette fin ne se réalise pas sur la terre, elle est au-delà. C'est une fin contemplative à laquelle on peut aspirer dès ici-bas et qui ne se réalisera parfaitement qu'après. Donc c'est du transphysique. On est devant l'immortalité et le problème de la destinée. Je crois qu'on peut dire que, à ce moment-là, on touche vraiment le problème de la personne. Mais le nom n'y est pas. Je dirais que c'est les pythagoriciens, les premiers, qui de fait ont regardé le problème de la destinée de l'homme. Et donc, au prix, ont considéré la philosophie comme une certaine sagesse. Sagesse religieuse, mais sagesse contemplative. Tout de suite. C'est très ancien, les pythagoriciens. On ne sait pas grand-chose du reste. Pythagore, c'est un être à la fois terrestre et divin. Je crois qu'ensuite, il faut regarder Socrate. Parce que c'est vrai, Socrate est le grand-père de la morale, de l'éthique. Vous voyez, c'est intéressant de voir que le problème de la personne s'éveille du côté éthique. Ça me semble très très net, du côté de la finalité et de la destinée de l'homme. Par le genre de vie qu'il choisit, Socrate montre qu'il est certain que l'homme est capable d'une destinée personnelle, capable de répondre à une vocation en se laissant conduire par son daimon intérieur. Socrate, c'est la découverte du daimon intérieur. Le daimon intérieur sont les voies intérieures. C'est quelque chose de plus que tout ce qu'on peut préciser. Alors Socrate, à la fin de sa vie, puisque vous savez bien qu'il y a trois Socrates, trois couches de Socrate. Socrate n'a rien écrit. Donc on a trois miroirs de Socrate. On a le miroir d'Aristophane qui critique et qui blague Socrate. Il y a le Socrate de Xénophon, et puis il y a le Socrate de Platon. Alors, Socrate de Xénophon, c'est le militaire. Hein, vous voyez Socrate en militaire, capitaine Socrate. était très très courageux, selon Xénophon. Et puis, il a terminé sa vie en philosophe. Sous l'inspiration, il a reçu le coup de grâce à Delphes. Alors vraiment, là, une vocation. Vocation tardive. De philosophe. Il a quitté tout pour connais-toi toi-même et connaître l'origine d'où on vient. C'est très beau, ça, ce point de vue-là. Donc, il est premièrement, vous voyez, Socrate est d'abord sophiste. Il se corrige d'être sophiste par l'armée. C'est très bon. Les sophistes fêtent un moment d'engagement militaire. C'est excellent. L'armée empêche d'être sophiste, du moins l'armée de ce temps. Et puis ensuite, devenez philosophe. C'est assez beau comme carrière. C'est pythagoricien, ça. Au début, on se purifie. Puis on devient un homme actif, puis un contemplatif. La manière dont Socrate accepte de mourir en restant fidèle à sa voix intérieure, son daimon intérieur, qui lui demande de respecter les lois de la cité, montre nettement qu'il est sûr que la vie d'ici-bas n'est qu'un passage vers une autre vie, et qu'il est sûr que l'homme, en ce qu'il a de plus profond, son âme immortelle, doit s'orienter autant qu'il le peut, dès ici-bas, vers cette vie future, seule digne d'être vécue. Il y a donc dans la vie de Socrate et dans sa mort un témoignage personnel qui éclaire toute la manière très spéciale, tout problème philosophique. Et c'est intéressant, vous voyez, de voir que les stoïciens ont été extrêmement frappés par le témoignage de Socrate et par la mort de Socrate. Ils y reviennent tout le temps. Et c'est les premiers qui ont parlé de la personne. C'est pas le hasard, ça. Vous voyez, donc, je dirais, là encore, Socrate ne parle pas de la personne. Mais il vit un mystère personnel. Ça, c'est sûr. Encore beaucoup plus nettement que les pythagoriciens. Il vit une destinée qui est au-delà de l'individu, au-delà de l'espèce. Il vit une destinée personnelle. Accepter de boire la ciguë par respect pour les lois, pour rester fidèle au daimon intérieur, ça montre que la vie de la terre n'est pas grand-chose. Et au fond, c'est peut-être ça, le grand problème de la personne. C'est de comprendre que la vie que nous menons ici sur terre est toute relative à une vie beaucoup plus importante, qui est une vie contemplative, qui sera pleinement vécue dans l'au-delà. C'est peut-être ça le grand ressort, vous voyez, qui permet de comprendre une personne, et ça fait comprendre comment ceux qui ne voient plus le problème de l'immortalité. Au fond, la personne s'enfouit dans l'individu. Oui, ah, ça va être très curieux, hein? Individu et personne. Individu, espèce, personne. On voit tout de suite ce problème qui se montre en philosophie grecque. L'individu, dans la mesure où il dépasse l'espèce, il est personne. Dans la mesure où il retombe dans l'espèce, la personne redevient un pur individu. Un numéro dans la série. Disciple de Socrate, Platon comprend que le problème philosophique fondamental est celui de l'immortalité de l'âme. Il y aurait à écrire la philosophie Platon, sous cet aspect, je crois que c'est vraiment ce qui commande tout le platonisme. C'est le problème de l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire le problème de l'âme, comme tel, de l'âme humaine, de l'âme contemplative. Et par le fait même, la mort prend une signification très importante pour lui. Parce que la mort libère. Philosophie de la libération. d'abord vous libère, libère l'âme et lui permet de contempler librement. La finalité propre du nous ne peut être que de contempler. C'est la théorie, la contemplation, qui commande toute la philosophie platonicienne. Mais voyez, c'est ce que le père Festugère dit dans son très beau livre, qu'il faut lire, hein, la contemplation chez Platon. C'est un survol de Platon, mais c'est très beau. Je ne dis pas que tout est exact, mais au moins c'est beau. C'est déjà quelque chose. Il y a une espèce de grandeur, de beauté de Platon. Festugère connaissait Platon. J'allais presque dire de l'intérieur. Alors il y a un petit coup de patte sur Aristote, constant. Faut pas faire attention. Mais il avait toujours un petit coup de patte sur Aristote. Je l'aimais beaucoup, Festugère. Il savait que j'aimais plus Aristote que Platon. Et là, c'était toujours le point délicat sur lequel on revenait. Mais malgré ça, il m'aimait beaucoup. Parce qu'il savait bien que peut-être qu'Aristote était plus grand que Platon. Mais pour lui, Platon était plus grand qu'Aristote. Ça, c'était très net. C'était Platon, le grand philosophe. C'est toujours très beau de rencontrer un grand platonicien, de rencontrer un grand néo-platonicien et de rencontrer un grand aristotélicien. C'est toujours intéressant. Parce que dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Platon existerait aujourd'hui, hein. On lui demanderait de venir faire des conférences. C'est bien évident. Et on serait tous extraordinaires. On aurait beaucoup de peine à découvrir la différence entre la beauté et la vérité. Et c'est tellement beau. Ça doit être vrai. On passerait vite de la beauté à la vérité. Ce qui est sûr, c'est que toute la philosophie de Platon, elle est orientée vers ce problème de l'âme, de l'intériorité par la contemplation. Et la mort apparaît comme justement nous libérant du corps. Le corps est un poids pour l'âme, le tombeau de l'âme. Retenez au moins ça. Et le mythe de la caverne. Je vous ai dit, il faut essayer de lire chaque année un dialogue de Platon. Ça fait partie de la culture philosophique. Celui qui n'a jamais lu rien de Platon, il lui manque quelque chose. Et le très beau livre de Festugère sur la contemplation, c'est une très belle chose qu'il faut avoir lu pendant ces années philosophiques. On ne peut pas nier que chez Platon, l'homme, l'âme spirituelle et personnelle. Alors, ensuite, le problème chez Aristote. Le mot personne n'existe pas encore chez Aristote. Vous voyez, c'est très curieux, toute la philosophie de l'homme s'est réalisée, pythagoricien, Socrate, Platon, Aristote. Et entre pythagoricien, Socrate, il y a toute une série qu'on pourrait nommer, c'est sûr. Je prends uniquement les points de départ. C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a vraiment un point de départ chez Socrate, un point de départ chez Platon, un point de départ chez Aristote. Et il y a chez les pythagoriciens un point de départ. Et alors, c'est intéressant de voir que on étudie l'homme et l'âme spirituelle, l'âme religieuse, l'âme immortelle, la destinée de l'homme. Ce pourquoi l'homme est fait, sans découvrir la personne.